problème, bientôt je vais me barrer dans le sud. Eux ils pourront prendre les paillettes et plus les carrés dans le cul. Parce que les enfants de la galère se demandent plus comment tu fais. Ils regardent la gueule d'un empire qui a l'air comme amputé. Aïe, ça part en sucette, à toi t'as pas rendu compte. Vivre entre stress et palette, je crois bien que je vais te faire un tuto.
Radio Canu, en FM et en stéréo à Lyon et partout ailleurs, aux alentours et même sur le web. On vient d'écouter La Gale avec le morceau 14%, Macklemore avec le morceau Claiming the City et Ropsé et Lucio Bukowski pour le morceau Stress et Palette. Radio Canu, la plus rap des radios.
Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est Idée Noire sur le 102.2 de Radio Canu, et c'est l'émission de l'Union Communiste Libertaire jusqu'à 21h, à tout de suite. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est donc notre excellent générique qui vient de se terminer. Ça veut dire que c'est le début de notre émission Idées Noires de l'Union Communiste Libertaire. Et il y a des annonces peut-être.
Oui, bonsoir à toutes et à tous. Quelques annonces pour démarrer comme on fait habituellement dans cette émission. Je vais vous parler d'un rassemblement qui vient de se finir ou qui est en train de se finir là. À ce moment même, place de la Comédie, c'était un rassemblement contre la répression des indépendantistes kanak, en solidarité avec les détenus et pour la décolonisation de la Kanakie. Alors pourquoi s'il y avait ce rassemblement, ou qui se finit en ce moment en tout cas, parce qu'il y a 25 ans en Kanakie-Nouvelle-Calédonie, les accords de Nouméa signés par les indépendantistes, les loyalistes et l'État français ont engagé un processus de décolonisation. Mais en contradiction avec cette démarche, ce 14 mai, le gouvernement a unilatéralement fait voter par l'Assemblée nationale un dégel du corps électoral pour les élections provinciales. Cette réforme de l'article 77 de la Constitution française noie le vote indépendantiste et perpétue la stratégie de colonie de peuplement. Elle a été l'élément déclencheur de violences qui endeuillent le pays. Il y a des demandes par rapport au collectif qui appelait à ce rassemblement. Donc le gouvernement doit retirer le projet de loi constitutionnelle du dégel du corps électoral de manière définitive, parce que pour l'instant ils l'ont retiré, mais on ne sait pas s'ils vont revenir dessus dans pas longtemps. Arrêter immédiatement la répression, retirer les troupes envoyées sur place et arrêter l'intervention des forces de l'ordre de l'État français sur les terres coutumières. Respecter le droit coutumier kanak, faire toute la transparence concernant les victimes de la répression, morts et mortes, blessés, interpellés, emprisonnés, transférés hors de Kanakie, les motifs des arrestations et les lieux de détention. et renouer le dialogue en Kanaky-Nouvelle-Calédonie pour retrouver la voie de la paix civile et reprendre le fil des négociations avec les représentants du peuple kanak. Donc là, c'était pour le rassemblement qui se tient en ce moment même, en tout cas qui se termine en ce moment même, place de la Comédie. Et il y a un rassemblement aussi demain, jeudi. C'est un appel à la mobilisation contre la fermeture de lits et d'unités de soins à l'hôpital psychiatrique Saint-Jean-de-Dieu. Mmh. Donc pour rappel, au centre hospitalier Saint-Jean-de-Dieu, ce sont 115 lits pardon, qui ont déjà fermé ces dernières années, auxquels s'ajoutent pour cet été 20 lits en gérontopsychiatrie et 25 lits de psychiatrie générale adulte. C'est le service Magalon 2. Donc les personnes qui appellent, les syndicats qui appellent à se mobiliser donc ce 20, donc ne veulent pas être dupes sur la volonté de fermer encore des lits sous couvert des postes vacants. Si ces postes sont vacants, c'est surtout que les salaires ne sont pas à la hauteur, que les conditions de travail sont massivement dégradées, que les pressions institutionnelles sont trop importantes. La perte de sens et la fuite des professionnels ne vont être que majorées. Cette fermeture va impacter l'ensemble des secteurs de psychiatrie déjà complètement saturés et débordés sur les services d'urgence du Rhône, de Vienne et de Bourgoin-Jallieu. Les établissements et services médico-sociaux de la Fondation et d'ailleurs font aussi les frais de ces décisions. Concrètement, pour les patientes et les patients, ce sont des ruptures de soins annoncées. Alors que les patientes et patients n'ont pas accès aux soins et ou sortent prématurément, et alors que des drames humains émaillent l'actualité avec des personnes laissées sans soins, jusqu'où iront l'ARS, le gouvernement et notre direction dans la destruction méthodique de notre établissement psychiatrique. Donc ce collectif appelle l'ensemble du personnel, la population, les élus à se mobiliser contre cette fermeture et toutes les autres qui impactent l'accueil et les soins de la population et détruit nos missions de service public. Donc il y a une manif demain 8h30 devant l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, c'est au 290 route de Vienne dans le 8e. Et enfin une autre date, si vous êtes du côté de la frontière italienne, le 22 juin, il y a une manifestation miroir en gare de Bardonacchia et de Modane à 11h. La thématique, c'est bien entendu le Lyon-Turin, le TGV. Donc oublier, sacrifier, bafouer, les populations de la Maurienne et de la vallée de Suse ne sont pas dupes. Donc ils exigent évidemment l'arrêt des travaux et la réouverture de la ligne existante qui a été fermée. Donc voilà, et bien évidemment il y a toute une dimension aussi écologique à cette lutte. Donc si vous êtes dans le coin, le 22 juin et ensuite ce dimanche pour finir, 23 juin 15h, place des Terreaux, un rassemblement féministe contre l'extrême droite appelé par le collectif Droits des Femmes 69. On va parler donc du coup à précédence un peu d'actualité, donc vous imaginez laquelle, bien évidemment, on est peut-être du coup pas loin dans quelques jours d'un gouvernement d'extrême droite, et donc je vais vous lire deux tracts de l'UCL, assez récents, un sur l'urgence de la construction d'un front antiraciste pour lutter contre l'extrême droite, et un deuxième du coup sur les élections en elles-mêmes. La dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron, alors que l'extrême droite n'a jamais été aussi haute, nous menace d'une extension du pouvoir de l'axe Rassemblement National, Reconquête et LR, tendance Éric Ciotti au Parlement, tandis que près d'une personne sur deux n'est pas allée voter. Il faut s'opposer à l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite ainsi qu'au racisme en France, largement admis, dont le RN est son porte-étendard politique. Nous voyons une partie de la société française légitimer les meurtres et le harcèlement par la police dans nos quartiers, légitimer la persécution de personnes risquant leur vie en mer et à nos frontières, au nom de l'identité française, entre guillemets. C'est cette partie de la société française qui fonde l'électorat d'extrême droite, peu importe leur classe sociale. Macron n'a jamais été autre chose qu'un marche-pied pour le projet raciste de l'extrême droite. Son gouvernement plonge la France dans une crise sociale, économique, politique profonde, tout en appliquant une partie des revendications de l'extrême droite, comme dans la loi Asile et Immigration. Le RN se nourrit de cette tradition colonialiste passée et présente de la République française, celle qui impose sa domination raciste sous de prétendues valeurs universalistes. En effet, la France est présente dans tous les océans. Le drapeau français est tissé en Polynésie française, en Guyane, sur l'île de la Réunion, dans les Antilles, à Mayotte, dans les Comores et enfin en Kanaky. Les accords de coopération et d'accès aux matières premières, les ingérences et les interventions militaires dans les pays décolonisés ont donné la France-Afrique. N'oublions pas non plus que le gouvernement français perpétue son soutien auprès d'Israël. Par une convergence de nos intérêts impérialistes, nous rendons complices du génocide en livrant des armes « made in France ». D'ailleurs, oui, petite parenthèse par rapport à ça, on ne sait pas où c'en est, mais du coup une journaliste du site Blast, du magazine d'information Blast, a été arrêtée alors qu'elle suivait justement une mobilisation contre une usine d'armement. À l'heure où le RN et Reconquête font des scores records aux dernières élections, un réel combat de long terme contre les argumentaires d'extrême droite est urgent. Ce combat doit se porter contre le principe principal carburant du RN, à savoir le racisme. Il est assumé contre les musulmanes et musulmans, les personnes perçues comme noires ou arabes, ou encore les roms ou gens du voyage. Il est moins assumé aujourd'hui contre les juifs et juives, mais ça ne durera pas une fois aux commandes de l'État. Nous avons appris dernièrement le meurtre d'Angela, mère de famille et enceinte de 7 mois par deux hommes, portant la haine des personnes roms, ainsi que la tentative d'un attentat dans un gymnase durant l'Aïd à Bonneuil. Toutes nos pensées vont aux proches d'Angela, ainsi qu'à toutes les personnes musulmanes victimes des dernières attaques de l'extrême droite. Nous en faisons de même pour les personnes juives, ayant fait face à des agressions antisémites récemment. Nous avons besoin d'une lutte antiraciste de terrain, en anticipation du meilleur comme du pire, en tissant des liens de solidarité dans les quartiers, dans les lieux d'études et au travail. Nous avons besoin de collectifs et de sections syndicales pour se défendre contre la violence raciste et pour arracher les victoires sociales qui amélioreront nos conditions de vie à toutes et à tous. Aucune voix ne doit aller ailleurs qu'au Front populaire, mais rappelons toujours et encore que le racisme n'est pas une question morale, mais sociale. Les violences racistes entretiennent les discriminations à l'emploi, au logement, à la santé, à l'accès à une vie décente en général. Aucune voie de victoire n'est possible à court ou à long terme sans l'unité de notre camp social face au racisme qui gangrène la France. Abat l'extrême droite, abattons le racisme d'État. C'est un communiqué de l'UCL donc du 18 juin, ce 18 juin 2024. Et je vous lis du coup un texte qui a été écrit à la suite d'une réunion fédérale qui a eu lieu ce week-end. Bloquer le RN, préparons la contre-attaque. L'accès du RN à Matignon serait un désastre. Le rempart du moment, c'est le Front populaire, mais fondamentalement, ce sont les luttes collectives et un mouvement social fort qui constitueront une alternative au libéralisme et au fascisme. Ça y est, nous y sommes. La menace fasciste qui montait depuis 40 ans est aux portes du pouvoir et elle n'y est pas arrivée seule. Les gouvernements socialistes, PS, gaullistes, UMP, LR et libéraux, Macron, lui ont fait la courte échelle en banalisant les idées de l'extrême droite pour masquer leur politique libérale et antisociale. Alors, ce que ne fera pas le RN s'il gagne ? Ramener la retraite à 60 ans, on a déjà vu qu'il reculait là-dessus, même pour abroger la loi en cours. Ressusciter les services publics, repeupler les déserts médicaux, améliorer le pouvoir d'achat, parce que tout gouvernement qui gère le capitalisme va dans son sens. Mais ce qu'il fera plus assurément, pour masquer qu'il fait la même chose que Macron, Hollande, Valls ou Sarkozy, il va passer son temps à persécuter, entre guillemets, les mauvais Français, LGBTI, grévistes, écologistes, les faux Français, entre guillemets, noirs, arabes, musulmans, etc. Il accentuera une politique qui profite aux riches, comme le fait Macron et comme le font ses modèles Orban, Poutine, Erdogan, Netanyahou ou Meloni. Il cassera les services publics pour réduire les impôts des riches. Il l'a prouvé en applaudissant la suppression de l'ISF. Il s'attaquera aux droits des femmes, notamment à l'accès à l'IVG, freinera la reconnaissance des violences sexistes et sexuelles. Il favorisera l'utilisation des pesticides qui empoisonnent les zones rurales et accélérera le désastre climatique. Il cassera l'audiovisuel public qui gêne les grands groupes capitalistes et notamment celui de leur copain Bolloré, et il encouragera les crimes policiers qui vont se multiplier, tout comme les agressions des groupes nationalistes. Juste pour faire une petite parenthèse sur Bolloré, je sais pas si vous avez vu ça, mais ce dimanche, en tout cas, ils mettent vraiment de gros moyens pour arriver à leur fin, puisque ce dimanche, c'était distribué gratuitement au moins devant un métro, mais on pense dans plusieurs métros de la ville de Lyon et sûrement dans d'autres villes en France, gratuitement, leur torchon, le JDD. Donc, qui a été racheté par Bolloré très récemment et qui est géré du coup par l'ancien éditeur, enfin celui qui gérait Valeurs Actuelles. Donc il y a vraiment une volonté financière et des gros moyens financiers mis pour que l'union de ces droites, extrême droite, puisse se faire lors de ces élections et lors du vote qui va arriver bientôt. On a vu aussi à la télé, de toute façon c'est tout la même rengaine, hein, que ce soit sur C8, Europe 1, CNews, etc., avec notamment le fameux Hanouna qui devait partir en vacances, c'était plutôt pas mal. Ben non, il reste pour deux semaines, il fait une quotidienne sur Europe 1 pendant deux heures tous les après-midi sur les élections législatives, et bien sûr ses premiers invités, ça a été par exemple Éric Zemmour. Il y a eu des gens d'extrême droite invités, tout ça pour essayer de faire rentrer dans la tête des gens que cette alliance, a priori contre nature, devait se faire. Je reviens au tract. Donc, ce que nous devons faire, nous, en tant que militants et militantes communistes libertaires, donc défendre nos droits et nos libertés, notamment celles des personnes que le RN frappera en premier, c'est-à-dire les mineurs trans, les LGBTI, les personnes handicapées, les migrants-migrantes, les musulmans-musulmanes, rejoindre toutes les initiatives populaires, assemblées de quartier, manifestations, rassemblements pour dire non au RN, c'est ce qu'on a fait du coup dimanche dernier, et appuyer la jeunesse dans sa mobilisation massive, convaincre que le Rassemblement National est l'ennemi de notre classe. Il nous faut donc aussi renforcer les contre-pouvoirs dans les entreprises et dans les quartiers. Il y a un gros boulot à faire dans les boîtes, syndicats de lutte, associations féministes, antiracistes, etc., mais aussi les organisations révolutionnaires dont l'UCL. Il faut aussi poser la question de l'unification des syndicats combatifs pour être plus fort. En juin 36, c'est bien la grève générale qui a fait gagner toutes les conquêtes sociales, semaine de 40 heures, congés payés. Le gouvernement du Front populaire n'a fait que courir après les événements. C'est seulement un mouvement social fort qui permettra de construire une alternative au libéralisme et au fascisme. Donc voter sans illusion ni scrupule. Plutôt qu'un gouvernement d'extrême droite, nous préférons affronter un gouvernement de gauche, et pas d'extrême gauche comme veulent nous faire croire les médias aussi. Nous n'en attendons pas de changement social pour voter Front Populaire, parce que c'est plutôt un choix tactique. Il s'agit d'obtenir un répit, peut-être que 2 ans, mais voilà, ce sera déjà un répit. Quel que soit le gouvernement qui sortira des unes, le mouvement social devra se battre tout de suite pour faire avancer ses propres revendications. Front Populaire face aux réactionnaires, révolution sociale contre le capital. Voilà pour cette déclaration de l'UCL qui date du 16 juin, donc de dimanche, voyez, il y a 3 jours. Juste revenir, voilà, avant de faire la première petite pause musicale. Voilà, il y a pas mal de tracts qui tournent, soit au niveau syndical, au niveau d'organisation politique, voilà, sur le Rassemblement National, notamment sur la base du pouvoir d'achat. On refait juste un petit point très rapide pour vous rappeler sur ce quoi les députés du RN, hein, qui se disent sociaux, ont voté contre. Donc, au niveau des salaires et des retraites, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC à 1500 euros net. Ils ont voté contre l'indexation des salaires sur l'inflation. Ils ont voté contre l'encadrement des salaires, la revalorisation des petites retraites, la revalorisation des salaires des fonctionnaires de 10% et contre la suppression des aides publiques aux entreprises qui ont augmenté les dividendes des actionnaires sans augmenter leurs salariés. Sur le pouvoir d'achat, ils ont voté contre le blocage des prix sur les produits de première nécessité. Ils ont voté contre la gratuité des premiers mètres cubes d'eau, contre la revalorisation des APL de 10%, contre le gel des prix des loyers et contre l'augmentation des hébergements d'urgence. Par rapport à la fiscalité, ils ont voté contre le rétablissement de l'ISF, contre la taxe sur les super-profits, contre la taxe sur les revenus supérieurs à 3 millions d'euros, contre l'augmentation de la TVA sur les produits de luxe, contre l'augmentation de la taxe sur les logements vacants, contre l'augmentation des moyens pour lutter contre la fraude fiscale et contre l'augmentation de la fiscalité sur les résidences secondaires, par rapport à l'éducation, contre la gratuité des cantines et fournitures scolaires pour les plus modestes, contre la revalorisation des bourses étudiantes au niveau de l'inflation et contre la garantie d'autonomie jeune à 1063 euros. Au niveau féministe, ils ont voté contre, alloué 1 milliard pour lutter contre les violences faites aux femmes. On peut continuer sur les services publics, contre le recrutement de sapeurs-pompiers et revalorisation des salaires, contre l'augmentation des budgets alloués à l'université, contre l'augmentation des moyens alloués aux hôpitaux, contre la baisse de la TVA sur les transports en commun et contre l'augmentation du nombre de greffiers et de magistrats. Avec les casseroles qu'ils ont, c'est pas très étonnant. Et au niveau écologique, contre le conditionnement des aides publiques aux grandes entreprises au respect de contraintes écologiques, contre la suppression de la niche fiscale sur le kérosène aérien, contre l'instauration d'un impôt sur la fortune climatique et contre la taxation des yachts et des jets privés. Ils ont voté pour des choses, et ils ont voté pour notamment la fin des droits au chômage après abandon de poste, merci. Ils ont voté pour la fin des allocations chômage pour les employés refusant un CDI à la fin de leur CDD. Réduire les droits au chômage des étrangers hors Union européenne. Ils ont voté pour interdire la présence d'étrangers au sein des instances représentatives des entreprises. Ils ont voté pour limiter le droit de vote des travailleurs précaires aux élections professionnelles. Ils ont voté pour la hausse du plafond de défiscalisation des heures supplémentaires et pour la baisse des impôts de production. Et au niveau de la culture, ils ont voté pour la suppression de la redevance audiovisuelle, pour exclure l'achat de mangas du pass culture et contre l'interdiction de l'écriture inclusive. Ça fait beaucoup, n'est-ce pas, messieurs, dames, Et on vous propose une petite chanson là pour faire la première petite pause musicale. Alors c'est une chanson qui date un petit peu, 2004 je crois, mais qui revient à la mode suite à ce qui se passe en ce moment dans le pays, et notamment dans les réseaux sociaux et chez les jeunes, et c'est plutôt chouette. On vous la passe, ça s'appelle Marine.
Ce soir ça va mal, j'ai trop de choses sur le cœur, donc il faudrait que l'on parle, Marine. Si je m'adresse à toi ce soir, c'est que tu es pour quelque chose, t'as tout fait pour que ça foire, Marine. Dans le pays de Marianne, y'a l'amour, y'a la guerre, mais aussi le mariage, Marine. Pourquoi tu perpétues les traditions, sais-tu qu'on sera des millions à payer l'addition? Ma haine est immense en ce soir de décembre, quand je pense à tous ces gens que tu rassembles, tu sais. Moi je suis comme toi, je veux qu'on m'écoute. Et tout comme toi, j'aimerais que les jeunes se serrent à l'écoute, Marie. D'un prénom si tendre, un vrai prénom d'ange. Mais dis-moi ce qui te prend, Marie. On ne sera jamais amis parce que ma mère est française, mais que je ne suis pas née ici, Marie. Regarde-nous, on est beau, on vient des quatre coins du monde, mais pour toi on est trop. Ma haine est immense quand je pense à ton père. Il prône la guerre, quand nous foulons la paix. Donc j'emmerde, le Front National, moi j'emmerde, le Front National, moi j'emmerde, Marine, par tous ces gens que t'encraînes dans l'urgence. Marine, t'es mon aîné et pourtant je ne te respecte pas. Il m'a fallu faire ce choix. Marine, tu pouvais briser la chaîne, prendre la parole et nous rendre nos rêves. Mais Marine, t'as fait la même connerie que lui, penser que le plan ne se mélange pas à autrui. Marine, on ne sera jamais copine parce que je suis une métisse et que je traîne avec Ali. Marine, plus je te déteste et mieux je vais, et plus je proteste et moi nous payons les frais. Donc j'emmerde qui? Le Front National, moi qui prônent la haine, plutôt de ceux qui vantent et qui espèrent que ça s'arrête. T'as fait couler le navire, Marine, j'ai peur du suicide collectif des amoureux en couleur. Marine, pourquoi es-tu si pâle? Viens faire un tour chez nous. Marine, j'aimerais tellement que tu m'entendes. Je veux bien être un exemple quand il s'agit de vous descendre. Marine, tu t'appelles Le Pen, n'oublie jamais que t'es le problème d'une jeunesse qui saigne. Viens, viens, allons éteindre la flamme. Ne sois pas de ces fous qui défendent le diable. Marine, j'ai peur que dans quelques temps tu arrives et que nous devions tous foutre le camp. Donc j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Le Front National, moi j'emmerde qui? Moi crever que d'aller boire un café avec toi. Je t'emmène.
Et voilà, ça fait un bon petit son à entendre, hein. C'est juste que c'était repassé à la dernière manif de dimanche aussi, en fin de manifestation. La manifestation de dimanche, ça fait plaisir.
Qui est-ce qui interprète?
Donc c'est Diams en fait.
Ah, c'est Diams.
Ça date de 2004. Donc d'accord, voilà, okay. Déjà d'actualité à l'époque et encore plus aujourd'hui. Donc ça revient sur les réseaux, ça tourne a priori à fond chez les jeunes et tant mieux en tout cas. Vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et nous allons donc passer à une page de lutte sociale.
Oui, parce que ben voilà, c'est toujours en route. Et on va passer en début de juin à Méault, c'est dans la Somme, et c'est un sous-traitant de l'aéronautique du nom de 3A. 3A comme la cotation ou les andouillettes éventuellement. Donc une grève pour dénoncer des salaires très bas après le rachat de la société par le groupe Daher. Et puis, oh joie non dissimulée des travailleurs et des travailleuses suite à des annonces de la direction, le mouvement stoppait en fin de journée. La vigilance quand même restait de mise, c'est la CFDT qui le dit. Il y aurait un possible changement de statut, voire de convention collective de 3A, de la société 3A, à Daher, à suivre donc. Et à Tarbes, c'est la même société, et là, il y avait 40 salariés sur 150 qui étaient en grève. À Saint-Avold, c'est une suite, et c'est en Moselle, le 4 juin, pour une deuxième couche de grève sur le site de la centrale à charbon Émile Huchet, dont j'avais fait déjà une petite brève là-dessus, du groupe Gazelle Énergie. Alors, une décision en assemblée générale d'une grève illimitée pour répondre à la non-réponse de l'État sur une reconversion promise par M. Macron en personne. Alors, promesse envolée, réalité oubliée, ça c'était un slogan sur une banderole. Macron, le charbon de la désillusion, ça c'était sur une autre. Le 5 juin, les accès du site était bloquée. Mobilisation d'une centaine de personnes. Le charbon s'est terminé en 2027. La centrale doit se reconvertir à la biomasse, selon le syndicat de selon la CFDT, qui accuse le gouvernement de ralentir la reconversion de la production d'hydrogène. Marseille, le 4 juin, grève à la régie des transports métropolitains, en plus court c'est RTM, pour les réseaux de transport public routier. Les salariés du réseau d'Aubagne étaient en grève, eux, depuis le 21 mai. Les conditions de travail, etc., etc., exigent aussi, ils et elles exigent un aménagement du temps de travail, une prime de compensation. Alors, dénonce l'état des véhicules également, c'est-à-dire les bus, depuis la récupération par l'ARTM en janvier 2023. Des questions salariales aussi, bien entendu, sont sur la table. Les conducteurs et conductrices sont mieux rémunérés à Marseille, alors qu'à Aubagne, le temps de travail y est supérieur. Alors, il y a Martigues également, qui connaît donc les mêmes problèmes, et il y avait 79% de grévistes quand même à Marseille le 1er juin. Villeneuve-d'Ascq, c'est dans le nord, avec le 5 juin, 14 jours de lutte chez Nocibé contre un plan d'externalisation mijoté par la direction avec fermeture du site et aussi expédié 60 salariés à 40 km à Douvrin dans le Pas-de-Calais. Alors c'est pas tout, car il y aurait aussi dans le plan un changement d'employeur et des conditions de travail changeantes, ainsi que les salaires au minimum, et pas de discussion tant que la grève dure. Le 6 juin, c'était un piquet de grève et 80% de grévistes, 24 heures sur 24, sur la plateforme logistique donc de ce parfumeur. Oui, je ne l'avais pas indiqué, c'est un parfumeur qui se parfume d'ailleurs aussi, au passage, et exige, donc les grévistes exigent 150 euros d'augmentation à leur SMIC. Coutances dans la Manche, 5 juin, donc chez Elvia, c'est du circuit imprimé cette fois. Les NAO, donc négociations annuelles obligatoires, n'impriment plus entre les syndicats et la direction. Alors c'est pas une surprise. Par contre, la grève à 6h du matin pour une partie de l'effectif. Les salaires surtout étaient en question selon la CGT, non réglés, donc des questions non réglées. Ça vaut bien donc une lutte d'une durée indéterminée avec une augmentation collective et non pas à la tête comme ça se produit assez souvent et trop souvent même, qui est donc discriminatoire. D'autres sites Elvia peuvent également se joindre aux camarades de Coutances, donc les Coutançais et Coutançaises. Ben oui, c'est mon côté géographe qui ressort. Donc en Senis, dans la Loire-Atlantique, ce sont des postiers et postières qui sont en lutte au centre de distribution. 18 personnes qui ont entamé une grève sur la plateforme qui perturbe la propagande électorale le 5 juin à 7h30 pour une durée votée de 3 jours avec Sud PTT. La cause, sont des tournées qui sont supprimées depuis 2 ans et demi et la direction qui utilise à gogo des employés intérimaires pour combler les départs en retraite. Les grévistes souhaitent obtenir des ajustements technique et la création de postes de travail. Sur la plateforme de Nort-sur-Erdre, dans Loire-Atlantique également, les facteurs et factrices ont débrayé ce même jour et pour 15 minutes, je suppose que c'était en soutien à Ancenis. Aux collègues d'Anceny. Mazères, c'est dans l'Ariège, et c'était le 7 juin. 73 salariés qui étaient en grève à l'usine Étienne Lacroix. Ce qui a mis en colère ici les salariés, c'est une prime d'intéressement qui est jugée non équitable pour tous et toutes. Ça concerne le secteur ouvrier de production, le secteur de fabrication, de maintenance également et de méthode. Ce Ce 7 juin, la direction signait l'accord sur la prime des employés sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, d'où donc ce mouvement de colère là. Prime évaluée aussi sur le coefficient de chaque poste pour 3 années. Pour alors j'ai un nom ici qui a été employé, je le donne, c'est pour les Croaser. Alors je sais pas, c'est j'ai cherché ce que ça voulait dire, mais enfin ça désigne de toute façon les employés, les salariés. Alors mais je connais pas le sens exactement de ce terme, qui veulent donc montrer qu'ils et elles existent et leur mot à dire. Je pense que là c'est un rapport croisé, enfin bon bref, on va pas s'enfoncer avec ça. Donc ils ont leur mot à dire. Alors j'ai pas précisé que c'était une usine de pyrotechnie logistique civile et militaire. Ils fabriquent des bombes. Au niveau national maintenant, avec une grève mais nationale, hein, je dis bien, je précise, dans les ports français, tous les ports français appelés par la CGT Ports et Docks tout le mois de juin, qui a débuté le 4 juin et qui met la colère, c'est Macron encore une fois à propos de la réforme des retraites. Grève sous forme de débrayage de 10h à 16h pour protester contre les promesses non tenues selon le syndicat. Ces promesses précisaient, s'il faut-il le rappeler, que les salariés dockers des ports seraient exemptés des mesures appliquées aux travailleurs du privé lors d'une visite au Havre en avril 2021. Qui bénéficierait du régime particulier de la réforme votée en 2023. La fédération Ports et Docks appelle à 14 journées de mobilisation, à savoir les 4, 6, 10, 12, 14, 18, 20, 24 et 26, 28 pour donc des journées de grève et 24 heures les 13 et 21 et 25 et une opération Port Mort le 7 juin. Alors tout ça s'est passé un petit peu quand même, enfin c'est en cours, hein, voilà. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas tellement, hein. On n'a pas entendu parler de cette grève des ports et docks, des dockers. À Reims, maintenant dans la Marne, c'était le 11 juin avec une grève au laboratoire Unilab Bio-CT, salariés, donc salaire, augmentation impérative, significative et pérenne, c'est envoyé, donc c'était encore une fois là stipulé sur une banderole, ras la pipette d'en avoir que des miettes, une autre banderole. On parle beaucoup de miettes en ce moment, si vous avez écouté un peu cette émission et cette rubrique des luttes sociales, vraiment on parle beaucoup de miettes. Alors il y a 11 établissements régionaux donc pour Unilab, où j'en étais, 40 personnes du département avec des voisins aussi à l'appel de la CFDT, majoritaire dans l'établissement rémois pour faire aboutir des NAO qui traînassent, grille salariale, heures supplémentaires, flexibilité, investissement. La boîte avait été rachetée en 2022 par un groupe d'investisseurs pourtant. Hein. Et puis pour cette dernière page, cette dernière lutte de Blois à Blois dans le Loir-et-Cher, c'est le 13 juin avec 200 personnes sur un piquet de grève, c'est déjà pas mal. Ça rue donc dans les brancards chez Chocolat Poulain. Chocolat, je croyais que ça n'existait plus, les gens, Chocolat Poulain. Et ben, tu vois, comme quoi les grèves sont intéressantes à tout point de vue. Chocolaterie historique, hein, parce qu'elle a 170 ans quand même. Alors, c'est Carambar, en fait, qui a repris le Chocolat Poulain. On s'amuse avec ça, c'est marrant. Qui est proprio depuis 2017. Et je disais que c'était pas une blague. Bah oui, c'est pas une blague Carambar, mais en fait, c'est un groupe. Hein, c'est Euraseo qui souhaite donc faire le site et 109 salariés donc qui vont se retrouver au tapis pour le compte qui n'y est pas d'ailleurs. CSE en face de la direction d'Euraseo, investisseur encore une fois, donc pas de pitié, il faut taper dans le dur. La rencontre était prévue le 13, d'où la mobilisation de cette mobilisation. La direction a remis les docs, donc les documents aux représentants syndicaux et du personnel le matin même de la réunion, qui a finalement été reportée, parce que oui, qu'est-ce qu'on veut étudier, des informations, un doc, quand
On les remet à une heure de la réunion, quoi. C'est pourri.
Tout à fait.
C'est bien pourri.
On va continuer un peu sur la même thématique que tout à l'heure, sur le Rassemblement National. Il y a urgence. Et du coup, il y a une chose intéressante qui est faite à chaque fois par certaines journalistes de Libération, c'est qu'ils vont gratter un petit peu chez les... là, on a eu les listes, du coup, pour chaque circonscription. Il y a des députés, enfin, en tout cas, des candidats et candidates du Rassemblement National qui veulent devenir députés. Et donc, ils grattent un petit peu pour voir un petit peu s'il n'y aurait pas quelque chose, quand même. Et effectivement, bah, du coup, ils ont toujours des petites failles. Hein. En tout cas, en grattant un peu le vernis, mais ils ont beaucoup de vernis en haut, Bardella et Le Pen, même si on n'est pas dupes sur ce qu'ils pensent réellement, mais en tout cas, leurs candidats, ils en ont un peu moins et ça se voit. Donc, comme à chaque élection, nombre de candidats soutenus par le parti d'extrême droite se distingue par d'indéfendables propos publics. Et donc, quelques révélations, du coup, sur les possibles futurs députés lepénistes. Chassé le naturel, il revient au galop, alors que le Rassemblement National pourrait, après sa victoire aux élections européennes, remporter les législatives anticipées et rentrer à Matignon. Donc, Libé s'est penché sur la liste des candidats investis par le parti. Et bien, du coup, on y va. On a donc Marie-Christine Saurin, investie par le RN dans la première circonscription des Hautes-Pyrénées. Elle n'hésite pas à parler, entre guillemets, de terrorisme climatique sur Twitter en juin 2023 au sujet du traitement du réchauffement planétaire par France Télévisions. Mais cette retraitée de l'éducation nationale, est surtout raciste. Elle dit notamment « Non, toutes les civilisations ne se valent pas », donc elle estime sur le réseau social le 11 janvier, ajoutant que certaines sont juste restées au-dessous de la bestialité dans la chaîne de l'évolution. Un tweet désormais supprimé, mais qui a été gardé, enregistré en tout cas par les journalistes. « Quelle civilisation juste ? Il y a des indices, comme lorsqu'elle vilipende le pape et sa propagandiste mondialiste. » Parce qu'une photo le montre serrant la main à des hommes noirs, ou ce message posté fin février à l'adresse de la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot, qui déplorait que des agriculteurs aient repris le vieux slogan lépéniste « On est chez nous ». Et donc là, elle dit, la dame, hein, « Si on lui dit de retourner sur son île, on va être taxé de racisme, on ne peut même pas lui répondre », écrivait donc cette peut-être future députée RN. Il faut savoir quand même que Prisca Thévenot, qui est d'origine mauricienne certes, mais qui est née à Strasbourg. En Côte d'Or, on a aussi une gagnante, Sophie Dumont, à fond dans les complots. Elle demande par exemple si le parti Reconquête ne serait pas financé par les Juifs. C'est ce que semble donc penser cette Sophie Dumont, candidate RN dans la 4e circonscription de Côte d'Or. Donc le 28 mai sur X, elle réagit à une prise de position de Sarah Knafaud, conseillère de Zemmour, en faveur de l'abattage rituel musulman et juif. Entre guillemets, le petit geste qui trahit l'origine des fonds qui alimentent Reconquête, donc selon Dumont. Invitée par Libé à préciser le sens de son propos, la candidate n'a pas répondu mais a supprimé son message. Conseillère économique du groupe RN à l'Assemblée, Sophie Dumont a été recrutée par Renaud Labeille, secrétaire du groupe et fidèle de la même paroisse traditionnaliste à Versailles. Le comte de la Quinca a fait la part belle aux théories du complot, particulièrement celle voulant que Brigitte Macron soit un homme. Dumont relaye notamment les écrits de la feuille antisémite Faits et documents à l'origine de la rumeur. Le 19 mars, la candidate partageait aussi des propos de l'ancien eurodéputé néerlandais Marcel de Graaf, décrivant l'Ukraine comme le plus grand fournisseur d'enfants pour les réseaux pédophiles. Un récit forgé par les réseaux de propagande russe. Donc ça, c'était pour Sophie Dumont en Côte d'Or. Mais on continue, parce que chez les Français de l'étranger, on a un suppléant au passé radical. Donc on a un recyclage de vieux militants. À l'image d'Éric Minet, donc, qui secondera Pierre Brochet dans la 11e circonscription des Français de l'étranger, couvrant l'Asie, l'Océanie et plusieurs pays d'Europe de l'Est, dont la Russie. L'homme, qui réside en Thaïlande, est un ancien militant de la FAN, groupuscule néo-nazi des années 70, et du mouvement néo-fasciste L'Œuvre française. Surtout, Éric Minet a été le premier gérant, à la fin des années 90, de la Librairie nationale, rattachée à la maison d'édition L'Encre, spécialisée dans les écrits nationalistes et négationnistes. Le catalogue faisait la part belle aux écrits des dirigeants des partis collaborationniste actif sous l'occupation. Dans les Côtes d'Armor maintenant, militante d'expérience, Françoise Billot a rejoint le Front National dans les années 80. La page Facebook de la candidate RN dans la première circonscription des Côtes d'Armor montre son attachement à un certain passé. En juillet 2021, donc, elle partage un hommage à qui ? Bah, à Philippe Pétain, chef du régime de Vichy et complice de crimes nazis. Une photo montrant sa tombe à l'Île-Dieu et la légende 23 juillet 51, mort en détention de Philippe Pétain, maréchal de France. Titre dont il a été déchu pour ses actes de collaboration. Le 8 mai dernier, jour anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, François Billot salue plutôt la mémoire du prêtre collaborationniste Jean-Marie Perrault, assassiné par un résistant communiste en 1943. La septuagénaire verse aussi dans le complotisme. Mi-mai, elle partageait une publication au relent antisémite faisant d'Emmanuel Macron le pantin de Jacques Attali et de Georges Soros encore. Vendredi 14 juin, elle partageait une série d'élucubrations au sujet de la présidence à l'air d'Île-de-France, Valérie Pécresse, qui serait grande maître de la loge franc-maçonne féminine de France, membre du groupe Bilderberg. Donc ce serait un club informel et très élitiste, objet de nombreuses théories du complot, si vous n'aviez pas compris. On a Joseph Martin. Joseph Martin, c'est intéressant parce que depuis que le RN a lu cet article-là, eh ben, ils l'ont viré de leur liste du coup. Enfin, la liste, elle est déjà faite, mais il ne sera pas sous étiquette RN. Donc qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur Joseph Martin, le candidat RN de la première circonscription du Morbihan, en est à sa sixième candidature quand même, bien qu'il ait longtemps porté la bannière Les Républicains. Ce septuagénaire est fier de ses origines espagnoles et de son intégration, comme il l'a récemment fait savoir à West France. Dans le même entretien, il compare donc l'immigration à l'invasion de la France par les troupes nazies en 40. Sur son compte X, il assure « Je préfère être ultra-catho que ultra-collabo avec l'envahisseur actuel ». Sur la même plateforme, il déploie tout son talent dans de déconcertants messages. Octobre 2018, il a dit quand même, le gaz a rendu justice aux victimes de la Shoah. Septembre 2019, au sujet d'une photo montrant le maire de Poissy entouré de personnes noires, il a écrit, je trouve le maire un peu palo, non ? Janvier 2019, commentant la vidéo d'un sextoy glissant sur un tapis roulant, ce bagage risque de manquer à l'Elysée. Et contacté, la fédération RN du Morbihan assure à Libé qu'il s'est avéré que ses propos ont été tenus. Il y a une convocation immédiate, voilà, et donc effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Dans les Deux-Sèvres, on a Olivier Guibert et son profil Facebook est a priori sans aspérité. La photo de profil montre un homme chenu en costume, très fier de poser aux côtés de Jordan Bardella. Mais en y regardant de plus près, l'homme ne fait pas de mystère de ses penchants radicaux. Sur le réseau social, le candidat dans la troisième circonscription des Deux-Sèvres aime des canaux particulièrement racistes. La page par exemple « L'islam est une saloperie », une autre intitulée « Non à l'extinction de la population européenne » en référence à la thèse raciste du grand remplacement, une troisième clamant « Non à l'islamisation de la Bretagne » illustrée par un cochon musculeux au faux air de skinhead. Les likes du candidat qui aime le Poutine fan club font aussi la part belle à des groupes et figures de l'extrême droite radicale, comme l'antisémite Johan Livernet ou l'ancien FN Alexandre Gabriac viré en 2011 pour un salut nazi. Voilà, donc ça c'est toujours sympathique. Et je vous en donne encore deux, trois, puis après on pourra soit enchaîner, soit faire une petite pause. En Loire-Atlantique, des délires pseudo-scientifiques, il y a aussi donc dans la cinquième circonscription de Loire-Atlantique. Là, c'est plus un LR tendance Éric Ciotti, donc peut-être avec une alliance avec le RN. Donc Bruno Combi part ainsi avec l'onction le péniste, ingénieur, président de l'association des écologistes pour le nucléaire. Il est aussi un écrivain prolifique, auteur d'ouvrages contre le tabagisme en faisant l'éloge de la sieste. Mais il défend aussi des thèses nettement plus douteuses, comme dans le livre Nature contre Sida, où il assure que le crudivorisme permet de lutter contre le VIH. Et en 2012, Charlie Hebdo révélait par ailleurs que Bruno Combi avait été membre de la secte dite de Montramé, dont le gourou Guy Claude Burger, j'allais dire Burger, mais je pense que c'est Burger, a été condamné en décembre 2001 à 15 ans de réclusion criminelle pour viol sur mineur de 15 ans. Dans la Vienne, c'est une anti-vax radicale. Dans le Morbihan, on y retourne, et je vous en fais encore deux, allez. Suppléant de Catel-le-Cuillier dans la 4e circonscription, Grégory Renard opère sur X sur le pseudo de Greg du Morbihan, sans cacher pour autant son engagement dans la campagne des législatives. Se croyant discret, il prend de larges libertés avec la, entre guillemets, normalisation du parti, comme lorsqu'il insulte un certain Morad de Bogmoul, faute de frappe, non, mais substitut connu de la vieille insulte raciste Bougnoul, utilisée pour contourner la modération des réseaux sociaux. Renard l'emploie à plusieurs reprises contre différents utilisateurs fin 2023, idem avec une autre périphrase, entre guillemets, les chances pour la France, évocation sarcastique des immigrés ou de leurs descendants repérés à leur couleur de peau. L'homme vilipende aussi forcément l'islam, région mortifère, qui dit, sans s'embêter d'une périphrase cette fois et contacter la fédération, assure à Libé que si c'est avéré, il sera viré aussi. Mmh. Allez, un petit dernier, Jean-Michel Cadenas dans la Mayenne. Il appelle de ses voeux, lui, une loi pour que les politiques déclarent leur appartenance à la franc-maçonnerie. Il y a aussi islam, cause LGBT, femmes entre guillemets libérées. Rien de trop grave ne trouve grâce à ses yeux, ou presque. Cet ancien militaire aime beaucoup le groupuscule Génération Identitaire dissous en 2021 pour son racisme et sa violence, dont il relaie la propagande sur X, tout comme celle de la Russie de Poutine, qu'il dit attaquée par l'OTAN. Il apprécie aussi le général Schall, l'un des chefs de l'OAS, organisation terroriste d'extrême droite active, à laquelle sont imputés plus de 2700 morts pendant et après la guerre d'Algérie. Cadenas a aussi signé la fameuse tribune publiée au printemps 2021 dans Valeurs Actuelles par un carteron d'étoilé en pantoufles qui réclamait à mots couverts l'intervention de l'armée pour éradiquer notamment l'islamisme mais aussi l'antiracisme. Donc voilà, hein, c'est pas mal tout ça pour les gens qui s'apprêtent à voter pour eux. Donc voilà. Bah, du coup, voilà, on va arrêter sur cette petite page-là. Vous voulez faire la petite pause musicale ? On enchaînera avec la deuxième page de lutte sociale.
Et écoute, on va écouter Mousse et Hakim pour La Canaille.
C'est parti.
La Canaille. Mais elle est où? Mais elle est où? Mais elle est où la canaille?
Dans la vieille cité française existe une race de fer, dans l'âme comme une fournaise, à 200 feux bronzés la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour parler ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dans la main. Par la plume ou le marteau gagne, en suant son morceau de pain. C'est le père en vain qui travaille, les jours et quelquefois les nuits. C'est la canaille, et bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui sans soupérime rêveur. Un sonnet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est ta critique. Qui ripaille, qui loge et qui a des habits, c'est la canaille.
Mais elle est où? Mais elle est où? C'est la canaille.
C'est l'homme à la face terreuse, au corps maigre, à l'œil de hibou, au bras de fer à main nerveuse, qui sortant d'on ne sait pas où, toujours avec esprit bourraille, se riant de votre mépris, c'est la canaille. Les uns travaillent par la plume, le front dégarni de cheveux. Les autres martèlent l'enclume et se saoulent pour être heureux. Car la misère en sa tenaille fait saigner leurs flancs amaigris. C'est la canaille, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Vous êtes toujours à l'écoute.
On l'a déjà écouté plusieurs fois.
C'est du bien.
Enfin, bon, c'est...
Vous êtes toujours à l'écoute.
C'est mignon.
Oui, exactement.
Et puis nous sommes des canaillots.
Exactement.
Petits canaillots. Ah.
Donc vous êtes toujours à l'écoute d'Idées Noires, l'émission des militantes et militants de l'Union communiste libertaire. Et on passe à une deuxième phase de lutte sociale.
En effet. Bon, alors, lutte sociale, toujours, avec cette fois dans le département de l'Hérault, plus précisément. C'est l'étang de Thaux, après 4 jours grévés depuis le 9 juin. Nous étions le 13 juin, donc les salariés de Keolis Méditerranée tenaient grève face à la direction qui a des oursins non seulement dans les poches, mais aussi dans les oreilles. Alors, difficile pour entendre évidemment les revendications. Refus de négocier, en jeu, c'était quand même une somme relativement coquette. 175 000 euros de bénéfices sur l'exercice de 2023 que le syndicat UNSA entendait partager avec les salariés. La direction invoquait une impossibilité de partage. Pourtant, amassé par le travail des salariés, UNSA exige que Keolis revoie sa politique d'entreprise. Saint-Rémy de Sillé, c'est dans la Sarthe. C'était le 11 juin, une société d'ambulance ADS qui est placée en liquidation judiciaire, ça arrive, et les salariés qui payent, c'est trop souvent. Alors ils étaient en grève depuis le 10 juin en protestation pour défendre leurs acquis, mais surtout que leur salaire soit versé. Ils sont 6, la liquidation date du 14 mai et une possible reprise quand même, enfin qui est très loin. Encore pour le moment. En principe, cela ne doit pas se reproduire. En fait, je parle de le non-versement des salaires. Hein, ça ne doit pas se produire puisque les entreprises ont une AGS, c'est-à-dire une assurance Une assurance qui garantit les salaires, ben c'est ce que ça veut dire, AGS, assurance de garantie des salaires, qui garantissent donc le versement en relais de la société qui est en difficulté. Mais il manquerait les bulletins de salaire, mais voilà, la comptabilité n'a plus de logiciel, donc pour éditer les bulletins de salaire, c'est rampé, enfin non, c'est invraisemblable, donc pour éditer les fiches de paye. Donc une histoire probablement d'IA, d'intelligence artificielle, alambiquée. Le tribunal de commerce qui a étudié une possible reprise rendra son étude, les résultats et de son étude, c'était aujourd'hui, le 18 juin, mais ils ne m'ont pas mis au courant. Wolfwiller, maintenant c'est en Moselle, et ça c'est une suite aussi des méfaits de la boulangerie industrielle Neuhauser du groupe In Vivo à propos d'une représaille sur un syndicaliste de la CGT, Christian Porta, sur une affaire grève. J'en avais déjà parlé il y a 15 jours avec toi, hein, Didier, Julien, ouais, donc bref, peu importe, donc une grève. Suite à une grève de février, le 13 juin, donc récemment, plusieurs dizaines de salariés se sont mis en grève pour la réintégration du délégué, dont le licenciement avait été refusé, je rappelle, par l'inspection du travail et les prud'hommes. Porta n'est pas payé depuis le mois de février, déclare que c'est une guerre d'usure de la direction à son encontre. En soutien, deux autres sites en grève, ceux de Rouen et de Reims, pour les salaires. Enfin, il y avait aussi une revendication sur les salaires et la réintégration donc de Christian, qui avait été accusé par la direction Neuhauser de harcèlement envers des salariés et interdit de lieu de travail, annulé donc par le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Alors rien n'y fait évidemment, puisque la direction s'obstine à harceler le délégué syndical alors que la réintégration a été ordonnée vu la nullité du licenciement par les prud'hommes de Forbach, et ça c'était fin mai. Une seconde procédure sera examinée, analysée par le Conseil des prud'hommes le 21 juin pour intrusion dans l'entreprise, alors que le tribunal de Sarreguemines le 16 février a autorisé le cégétiste à se rendre sur son lieu de travail pour exercer son mandat syndical, décision qui demeure applicable, et a condamné la société à verser 6000 euros à la CGT pour atteinte aux droits syndicaux. Donc c'est une histoire vraiment abracadabrantesque, voilà. Donc In Vivo, qui est le groupe propriétaire de cette boulangerie industrielle, est une coopérative agricole qui, avec d'autres du même acabit, règne en maître sur l'agriculture française, forte d'un chiffre d'affaires à plusieurs milliards d'euros. In Vivo est en bonne position aussi pour être leader mondial du malt. Alors ils peuvent rouler des mécaniques, hein, évidemment. Le gosier, maintenant, c'est en Guadeloupe, avec une grève du 6 juin qui a mobilisé les salariés de la MJC de la ville et de leur syndicat UGTG. Au 13 juin, la mobilisation s'affirmait pour une régularisation de leur salaire ainsi que l'amélioration des conditions de travail. Alors, pour appuyer, renforcer cet événement, deux écoles ont été bloqués, occupés, deux établissements scolaires où les salariés en question exercent des garderies, assurent des garderies pour les enfants. La préservation des droits de la couverture sociale est aussi dans les revendications. Elle dénonce les pratiques anti-grève et agressives de la coordinatrice, donc qui envoie des menaces sur menaces aux salariés. À Albi, dans le Tarn, 13 juin, avec une colère dans une filiale du Crédit Agricole, le groupe AVEM. C'est une cinquantaine de salariés qui étaient en manifestation au siège de l'entreprise. Les conditions de travail, les salaires, primes divisées par deux, surcharge de travail, donc une affaire d'effectifs évidemment, effectifs à surcharger finalement. C'était les mêmes revendications il y a 2 ans et on a eu la même histoire à Bruse en Ille-et-Vilaine. Et on passe maintenant dans une commune du Morbihan qui s'appelle, tenez-vous bien, Malestroit. Alors, la bien nommée, je dirais, quand il s'agit des conditions de travail des personnels soignants de l'EHPAD plutôt à l'étroit. Alors, cumul de journées de grève de ces personnels, c'est-à-dire les infirmières, aides-soignantes, hospitaliers, etc. 9 journées pour faire aboutir ce 13 juin des revendications. On ne peut plus nécessaire pour 200 résidents assistés par un effectif de 120 salariés sur un rythme infernal. Horaires, jours de repos, journées de 12 heures, intérimaires. Voilà, quoi ajouter après tout ça. Alors la CFDT et l'UNSA appelaient les salariés des cliniques aussi, ça c'est autre chose, donc, là, mais qui fait partie donc de cette grève-là. La CFDT et l'UNSA appelaient les salariés donc, des cliniques et EHPAD privés à la grève ce jour, donc le 18 juin, pour l'application d'un accord salarial qui avait été suspendu fin mai. Les directions en appellent donc à l'État pour un soutien, les directions des syndicats, en appellent à l'État pour un soutien financier. L'accord ayant été signé entre les syndicats et les fédérations des établissements privés en 2023. Et pour terminer, donc là, à Saint-Just-en-Chaussée, c'est dans l'Oise, 17 juin, 240 salariés, c'est le branle-bas de combat à l'appel de la CGT chez DS Schmitt et pour obtenir le bon poids à Gagny, à Nice et à Rouen et à Rochechouart également, en Haute-Vienne. Site en grève, c'est la CGT qui mène cette lutte quasi suivie par tous, c'est-à-dire, on va dire 100% de grévistes. Peser, c'est emballé. Chez Schmitt, on fait dans l'emballage en solution. Ce qui fait naître la révolte ici, c'est un rachat sans les informations à ce sujet pour les salariés. C'est le noir complet qui met à jour. Le noir complet qui met à jour, c'est pas beau ça. Donc une désorganisation, dépense des acquis, défense. Défense, oui, excusez-moi, je suis fatigué. Défense des acquis demande une prime à 3000 euros quand même pour donc 24 heures de grève. Et la suite, si tout va mal, ce sera qu'en septembre, on va préserver les vacances. Voilà. Et allez, pour ma petite part
pour cette émission, on va terminer, on va rester sur la même thématique parce que du coup à la suite des élections, des résultats pardon, des élections européennes et l'arrivée du RN en tête, il y a eu quelques déchaînements de violence comme on peut s'y attendre des groupuscules d'extrême droite. Ça a été le cas notamment à Paris, à Nancy, à Angers ou à Lyon. Il faut savoir, voilà, on a un témoignage sur un document, une Sarah qui s'était rendue à un rassemblement contre l'extrême droite organisé en début de soirée à Lyon, c'était une manif sauvage. Après la manifestation, cette intermittente du spectacle décide donc d'aller boire un verre avec des amis dans le quartier de la Croix-Rousse. Et elle dit, on était tranquillement assis en terrasse quand on a commencé à entendre des bruits et des cris qui venaient du haut de la rue. Je me rappelle que quelqu'un a crié « c'est les fachos ». Rapidement, on a vu arriver un groupe de 40 à 50 types qui criaient des slogans racistes et faisaient des saluts nazis. Des gens sur la terrasse les ont hués et ils ont chargé. Face à la violence de l'action, Sarah se réfugie dans une des rues adjacentes avec une grande majorité des clients du bar. Et elle dit « J'ai vu un homme se faire passer à tabac à coups de chaîne de vélo. Ils ont aussi jeté des chaises sur les gens, ont renversé des tables, c'était le chaos, tout le monde a eu très peur. » Après cet épisode traumatisant, elle décide de... partagée entre le choc et la colère, elle décide de diffuser une vidéo de l'attaque sur son compte Insta avant d'aller se coucher. En se levant, le lendemain, elle constate qu'elle a reçu des messages menaçants de la part de comptes anonymes et même une menace de viol que Libé a pu consulter. Elle envisage donc de déposer plainte, mais a peur de donner son identité et son adresse à la police, craignant qu'elle ne fuite. Je suis aussi choqué que les médias n'ont que très peu parlé de cette attaque, mais on en fait des caisses sur les 3 poubelles brûlées en marge de la manifestation contre l'extrême droite. J'ai l'impression que ces militants se sentent en toute impunité. Et oui, c'est forcément c'est même le cas, on peut le dire. En tout cas, est-ce que c'est ce même sentiment d'impunité qui a poussé Dès le dimanche 9 juin au soir, 4 militants du GUD, Paris, qui venaient de fêter la victoire donc, de Jordan Bardella, a agressé et a frappé un jeune homme dans le 5e arrondissement de la capitale en raison de son orientation sexuelle supposée. Lors de la garde à vue, ils ont été interpellés dans la foulée. Ils ont fait assaut de confiance, lançant notamment aux policiers « Vous ne savez pas qui je suis, hein. Demain à 14h vous êtes virés les gars. » Ou encore « Vous verrez quand Bardella sera au pouvoir et que Hitler reviendra. » Deux phrases rapportées à leur procès, mercredi 12 juin, par l'une des policières qui les ont entendues. Aussi, un autre dû, hein, vivement dans 3 semaines, on pourra casser du PD autant qu'on veut, ont-ils renchéri au commissariat selon une source proche de l'enquête. Et parmi les interpellés, figure l'un des leaders du GUD, Gabriel Lousteau, fils d'Axel Lousteau, ancien cadre du Rassemblement National et ami proche de Marine Le Pen. Gabriel Lousteau et Alvar K ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour non-assistance à personne en danger. Louis G et Briac F qui ont porté des coups à respectivement 5 et 7 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt, peine aménageable sous bracelet électronique. Mais ça n'a pas été tout, parce que du coup, la veille de cette condamnation, l'extrême droite faisait aussi parler des poings à Nancy. Un groupe d'une dizaine d'individus cagoulés, dont des militants de l'Action française et des hooligans d'extrême droite, selon plusieurs sources locales, s'en est ainsi pris à une manifestation spontanée contre l'extrême droite et pour l'Union des Gauches. La préfecture a confirmé que l'ultra-droite était bien l'initiative des heurts. Des vidéos des faits montrent une bande de nervis vêtus de noir, pour beaucoup cagoulés et certains armés, se mettre sur le chemin du cortège, puis